C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez Le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle mutation culturelle et pour m'accompagner, je suis avec Monsieur Adjan Chellil. Salut Adjan.
Salut Thibaut, comment tu vas ?
Ça va bien, voilà, donc c'est pas pour rien, voilà, ex-Sciences Po, hein, à Jeanne Chélil, donc
c'est
là,
vrai,
là
vrai,
on est typiquement, on fait un épisode géopolitique sur l'Ukraine, après on fait un épisode
oui,
sur les mutations
cette
culturelles.
Semaine tu voulais me faire travailler un peu sur mes basiques, tu vois, retour aux basiques, tu t'es
très,
dit,
c'est
bon,
très très Sciences Po
il
tout
faut
ça,
qu'il taffe, le mec.
Donc les amis, on va parler nouvelles identités aujourd'hui ouais, avec un constat,
je risque d'utiliser des mots de plus de 3 syllabes,
avec un constat, c'est que les réseaux sociaux, ils sont aux avant-postes des mutations culturelles, et pour ça, on va s'appuyer sur une étude, un rapport très intéressant qui nous est fourni par le groupe Meta avec Facebook en tête, qui nous apprend pas mal de choses et qui est assez passionnant.
Ouais, Facebook qui nous a sorti un gros rapport de tendance, bien épais, bien deep, avec plein de choses intéressantes dedans. J'étais presque étonné de ce rapport de tendance, tellement il était fourni, je dirais. C'est pas un rapport de tendance qu'on a l'habitude de le voir sur les formats qui fonctionnent bien, les spécificités visuelles qui arrivent en 2022, etc.
Non, là, non. C'est un rapport de prospective. C'est vraiment ça.
Ils sont allés chercher très loin. Ils ont fait un gros taf. On peut parler aussi un petit peu en deux minutes là, de la méthodologie. C'est quand même un gros boulot qu'a fait Facebook. C'est une étude de Facebook et sur Facebook et Instagram sur les 15 derniers mois sur les sujets de conversation qu'il y a sur les plateformes, donc à base de mots-clés, etc. Comme on peut faire, nous, des analyses conversationnelles quand on fait des rapports pour les clients. Sauf que eux, c'est sur 15 mois et c'est sur 3,5 milliards de personnes, hein, puisque c'est un peu costaud. Ils ont fait une étude des 21 derniers mois de hashtags sur Instagram pour voir un petit peu ce qui remontait petit à petit. Ils ont recoupé ça avec un sondage sur 36 000 personnes dans 12 pays différents sur 6 continents, donc costaud quand même le sondage. Et puis, à partir de là, ils ont recoupé toutes les informations qu'ils avaient, des conversations, des hashtags, des sondages qu'ils ont fait avec des questions précises auprès de populations. Et puis, ils ont essayé d'identifier les grosses tendances qui arrive là en 2022-2023. Moi, je pense que c'est même des tendances un peu plus long terme. Là, on est sur un peu comme si on était allé chercher un peu, tu sais, la lame de fond là pour voir un peu qu'est-ce qui arrive dans les prochaines années, quoi.
Est-ce que nous dit ce rapport, hein, en quelques mots, c'est les épreuves, elles façonnent qui nous sommes et ce que nous allons devenir. C'est notamment le cas avec la pandémie mondiale de Covid-19, évidemment. Hein. Nous sommes désormais 65% à attendre plus de notre travail et de notre vie en général. Pour 37% d'entre nous, la pandémie, elle nous a même carrément incité à revoir nos objectifs et nos priorités. C'est normal, les événements dramatiques, eh bien, ça transforme nos vies, hein, c'est le principe même, c'est pour ça que c'est dramatique. Et ces chiffres, tous ces chiffres, ils nous proviennent de cette étude Meta, d'une enquête réalisée par le cabinet d'études Minitel, le cabinet d'études est un nom marrant, qui a été menée auprès de 36 000 personnes sur 6 continents. Donc c'est assez énorme.
C'est
et effectivement, ce qu'on constate, eh bien, c'est que la pandémie mondiale, elle aurait été un catalyseur, un accélérateur de transformation culturelle. L'authenticité, l'expression de soi se développe, elles évoluent et donnent lieu aussi à un nouveau rapport à notre propre identité. C'est assez passionnant.
Ouais, clairement, j'ai appelé ça, pour revenir à une autre passion qui est le rap, c'est un game changer. Tu vois, la crise sanitaire, d'après Facebook, c'est quelque chose qui a complètement changé la perception de nos propres vies. Et ce changement de paradigme pour nous tous, qui est vraiment profond et qui est mondial, donc qui est quand même énorme, puisque comme tu disais, sur 6 continents différents qu'ils ont fait ce sondage, et ça a déclenché des nouvelles tendances, des nouveaux besoins. Alors, qui l'eût cru, Facebook qui nous fait une étude même sur les mouvements sociaux un petit peu, et ça, je trouve ça assez intéressant.
Premier gros point.
Ouais, parce que avant d'introduire même le premier vrai gros point sur les nouvelles identités, hein, Facebook qui nous dit un peu globalement sur ce dossier-là, et je pense qu'on aura l'occasion dans les prochaines semaines d'en reparler sur aussi d'autres sujets, mais que en gros, depuis plusieurs générations, il existe des problèmes qu'on repousse un peu à demain, qu'on traite pas forcément, avec des individus qui peuvent des minorités qui peuvent être un peu éparpillées et pas soudées, et que en fait maintenant là avec tout ça, la plupart des gens ont envie que le passé là, vos sites vraiment Facebook soient reconnus, que des responsabilités soient prises en promouvant l'égalité afin que les voix des groupes historiquement marginalisés soient entendues. C'est quand même un message assez fort de la part de Facebook. Alors on imagine bien qu'il y a un peu de politique aussi avec tout ça, mais moi ce que je trouve intéressant, c'est que ça nous montre que les réseaux sociaux, tu employais le mot tout à l'heure, c'est un catalyseur des mouvements qui peuvent exister à travers le monde, ouais. Et ça rapproche les gens. On l'a vu, on a parlé encore une fois il y a deux jours, mais on l'a vu pendant des révolutions arabes par exemple, comment ça a pu unir les gens. Et là, ça permet à des groupes qui sont des minorités, qui ont besoin de se faire entendre et qui étaient invisibilisés jusque-là dans nos sociétés, et bah, de se faire entendre, de communiquer entre eux et de communiquer aussi sur des sujets qui leur tiennent à cœur pour se faire entendre par l'opinion un peu publique générale. Et ça, c'est un vrai changement.
Allez, premier sujet qui est développé dans cette étude, on assiste à une révolution de la notion de genre. Le groupe Meta, à ce titre, a détecté un certain nombre de conversations qui sont émergentes et en très forte croissance entre 2020 et 2021, donc au cœur de la pandémie. Et au-delà des sujets de la binarité, qui est un sujet qui est clivant, fortement discuté, etc., il y a aussi beaucoup de conversations à l'échelle mondiale autour de l'égalité entre les genres, la fluidité du genre. Alors, quelques chiffres que nous sort Facebook. Égalité entre les genres, plus 40% de conversations sur l'intégralité du réseau Facebook, plus 40%, c'est substantiel à l'échelle mondiale. Langage inclusif, donc ces fameuses écritures inclusives dont on parle beaucoup en France, elle est aussi à l'échelle mondiale, plus 68% sur Facebook de conversations autour de ces thématiques-là. Et puis, côté Instagram, un hashtag, le hashtag trans, plus 29% entre 2020 et 2021 d'usage. Donc on le voit, les chiffres sont probants et effectivement on assiste clairement à une lame de fond autour des sujets et de la notion de genre.
Ouais, c'est clair que c'est assez fou ce qui se passe à ce niveau-là. On a en fait pareil des nouvelles perspectives qui remontent sur les plateformes. Je vais faire quelque chose que je fais rarement, mais je vais citer un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Amin Malouf et qui parle des identités multiples, du fait qu'on est on n'a pas une seule identité figée dans le temps, mais qu'on est une somme de multiples identités et qui évoluent au cours de notre vie. Et en fait, c'est un petit peu ça que nous explique Facebook sur, entre guillemets, ils appellent ça la révolution du genre. C'est de se dire tout simplement, notre identité, elle est en évolution. Et en fait, la plupart des gens, ils ont besoin de se sentir libres d'évoluer dans leurs identités. Et que ce soit sur l'identité, ça peut être même ce que vous faites. Hier, j'étais étudiant. Aujourd'hui, je suis social media manager. Demain, je serai peut-être encore autre chose. Tout ça évolue. Et du coup, Facebook prend ce biais-là pour nous raconter que le plus gros hashtag d'Instagram, c'est le hashtag love. Tu l'as vu. Mais qui ne veut pas dire la même chose en fonction des endroits dans le monde où on en parle. Il y a une chose qui est sûre, c'est que souvent, c'est une question de genre qu'il y a derrière ce hashtag love. C'est une conversation qui remonte beaucoup, les conversations sur le genre. Et ça peut être l'égalité des genres en Asie, ça peut être la fluidité du genre dans des pays plus occidentaux. On ne se pose pas tous les mêmes questions vis-à-vis de ça, mais c'est un sujet qui est sur la table pour tout le monde, en fait. C'est ça qui est intéressant.
T'as raison. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, puisqu'on parle de prospective aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir du marketing, pour nous, acteurs de la communication? Bien clairement, une tendance forte, accrue, vers un marketing et des produits de moins en moins genré. Ça, c'est quelque chose qui est en train de s'exacerber, on va dire, et qui va vraiment prendre un tournant avec de nombreuses marques d'ores et déjà qui conçoivent des vêtements, du maquillage, etc., sans tenir compte de la notion de genre. Et les exemples, ils sont multiples.
Ouais, il y a plusieurs marques. J'en ai choisi deux comme ça, qui sont un peu des historiques de marques qui ont pris cette route-là, je dirais. Il y a Stella McCartney, qui est une marque de vêtements un peu de luxe sur Instagram. C'est 6,8 millions d'abonnés. Vous avez les liens là si vous nous écoutez en podcast dans les notes. C'est aussi beaucoup de contenu TikTok et c'est une marque britannique qui a ancré vraiment dans ses valeurs l'activisme, eux ça va même plus loin. Pour te donner un exemple, c'est une marque qui a notamment collaboré avec le groupe Extinction Rebellion sur une de ses dernières campagnes, donc c'est assez costaud. Et il y a deux ans, elle a présenté sa première collection complètement non genrée appelée Cheered, et dans son imagerie de marque, quand on va sur ses plateformes sociales, on voit beaucoup de mannequins qui sont issus de la diversité, qui sont prêt à porter du coup des vêtements autant faits pour hommes que pour femmes. Et il y a vraiment cette idée du coup de non-genre, et on retrouve même dans leur bio la marque qui nous invite à les suivre dans leur Sustainable Luxury Movement. Donc voilà, c'est
alors évidemment là on est peut-être un peu dans l'avant-garde, vraiment aux avant-postes, mais et attendons-nous à ce que tout ça se mainstream.
Exactement.
Hein, clairement. Hein.
Là je vous ai choisi une deuxième marque qui est vraiment dans cet esprit là aussi, Ecos Lata, 245 000 personnes sur Instagram. C'est une marque qui s'est tout de suite inscrite dans cette tendance. Pour eux, je vais les citer, ils disent tout simplement: nous nous rapportons à l'identité de genre de manière un peu moins agressive, c'est moins binaire, et je pense que c'est une chose avec laquelle nous nous sommes toujours sentis en phase. Ils ont lancé ça en 2011, donc effectivement ils sont très précurseurs dans, dans cette voie. C'est Mike Eco, c'est Zoé Lata, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont choisi même pour leur défilé des mannequins qui sont pas forcément professionnels, qui ont pas forcément tous 17, 18, 19 ans. C'est des mannequins de tout âge, de toute couleur de peau, de toute origine, de tout genre, et en fait c'est ça que je trouve intéressant. Et eux, ce qu'ils ont compris et que d'autres marques commencent à mettre en place, on le voit sur des marques beaucoup plus mainstream comme tu le disais, c'est que tout le monde a besoin de se sentir représenté dans ces marques là et en fait c'est pas pour dire nous on est absolument non genré, c'est juste pour dire peu importe qui vous êtes, que de l'origine que vous ayez, la couleur de peau que vous avez, la sexualité ou le genre que vous avez, on en a rien à faire. Nous, chez nous, vous serez représentés et vous allez voir des mannequins, vous allez voir des vêtements, vous allez voir des choses qui sont faites pour vous et qui vous ressemblent. Et je pense que c'est ça qui est important.
Ouais, justement, ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça rebondit sur un deuxième sujet de cette étude qui est la quête d'authenticité, hein, qui petit à petit a laissé place à une tendance un peu plus jusqu'au boutiste qui serait l'authenticité totale. Hein.
Ouais.
Ce qu'on comprend dans l'étude, c'est que les mesures de confinement et de sécurité sanitaire qui ont été imposées par la pandémie, elles ont fait passer le naturel au niveau supérieur.
Ouais.
En 2 ans, les modèles, les canons de beauté traditionnels, ils ont petit à petit été rejetés, hein, littéralement, ce qui a conduit à des nouvelles formes d'acceptation aussi de soi et à une vision de la beauté qui est plus inclusive. C'est très intéressant. À titre d'exemple, sur des sujets de conversation émergents, pareil, au cours des 12 derniers mois, le mouvement body positivisme, plus 96% de conversations sur l'entièreté du réseau Facebook. C'est énorme.
C'est
le hashtag body positive, body positivity, plus 85% en un an sur Instagram. Donc c'est vraiment aussi là une lame de fond. Et qu'est-ce que ça veut dire là aussi pour les marques? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que le public, il continue d'exiger qu'effectivement qu'on les intègre davantage, hein, que les médias, que la publicité soit plus inclusif, représentatif, authentique.
Bah, tu vois, par rapport à ce que je disais juste avant, effectivement tu rebondis dessus, on a le hashtag Representation Matters, la représentation compte, qui a plus 65% ces derniers temps là sur Instagram. Donc ça vient bien corroborer un petit peu ce que tu es en train de dire aussi, le côté bah oui, on a besoin tous de se sentir représentés dans l'imagerie générale des marques. Et ça, les marques qui en 2022 l'auront pas compris et resteront bloqués dans des canons un petit peu ou des normes anciennes,
eh ben, elles vont commencer à se marginaliser
un peu old school,
ouais,
et elles vont
totalement
commencer à plus être dans la tendance. Je pense que ce que nous dit Facebook aussi la plus globalement dans ce dossier, avant qu'on attaque peut-être le dernier point, c'est juste que tout ça, ce sont des tendances un peu, comme je disais, lame de fond, mais qui vont sûrement, d'après Facebook aussi, hein, là c'est pas juste nous, on fait pas des prédictions comme ça, c'est d'après cette étude de Facebook, devrait devenir dans quelques temps la norme, hein. Ça devrait être la norme sur les réseaux, et c'est ça qui devrait un petit peu diriger le truc, quoi.
Alors là-dessus, hein, pareil, hein, sur le sujet de l'authenticité, il y a des marques qui ont déjà une longueur d'avance, hein. On pense à la marque Dove, forcément. La marque Dove qui est vraiment un précurseur sujet, qui a fait de l'inclusion un de ses piliers de prise de parole depuis déjà quelques années sur son compte Instagram. Allez jeter un coup d'œil au compte Instagram de Dove, vous allez vous rendre compte que la marque, elle propose un hashtag communautaire, totalement communautaire, qui s'appelle hashtag No Digital Distortion. Quel est le principe? Eh bien, aucune retouche digitale sur les photos et vidéos des modèles présentés par la marque, et ils invitent évidemment toute leur communauté de créatrices de contenu, de clientes, à faire exactement la même chose, c'est-à-dire à représenter les femmes telles qu'elles sont réellement dans la vraie vie. Et ça, on le voit, ce mouvement, pareil, il est initié par des historiques, et petit à petit, eh bien, chemin faisant, on va dire, il se mainstreamise.
Ouais, non, c'est très intéressant, et on voit de plus en plus de marques, hein, qui vont dans cette direction-là. Je pense que il y a aussi toute une influence culturelle autour de cette de tout ça. C'est on le voit même dans les courants musicaux. Il y a toute une partie en fait de la population qui était peut-être un petit peu, comme on le disait tout à l'heure, invisibilisée dans les plus grands médias, et que les plateformes sociales servent à mettre en avant et à passer à côté des médias mainstream qui bouchaient peut-être un peu toutes ces tendances là de fond qui arrive. et les réseaux sociaux permettent de les faire apparaître.
Bah, à ce titre, hein, en parlant de population invisible, hein, on pourrait parler des personnes en situation de handicap.
Oui.
Juste un chiffre là-dessus. Hein. En 25 ans, le handicap, il est présent dans moins de 1% des créations publicitaires.
C'est fou, hein.
C'est une étude qui a été menée par l'Institut Kantar. Je vous mets le lien direct. C'est simple. Les personnes atteintes de handicap, elles sont aujourd'hui quasiment absentes de la sphère médiatique et puis elles deviennent tout bonnement inexistantes lorsqu'il s'agit de publicité et notamment de prise de parole de marque. Et là-dessus, eh bien, cette étude, elle annonce un virage culturel vers davantage d'accessibilité et aussi un nouveau rapport au handicap. Hein. Elle révèle clairement une hausse super importante à prendre en compte autour de l'empathie pour les personnes atteintes de handicap. Sujet de conversation émergent, alors pareil, hein, croissance mondiale sur 12 mois. Le sujet neurodiversité, donc là c'est un peu tout ce qui a trait à l'autisme, la trisomie, etc. Plus 207% sur Facebook de conversation. Le braille, hein, plus 196% sur Facebook. Et puis le sujet handisport, et là on le sait pendant les Jeux Olympiques, qu'il a été vraiment à l'honneur, le handisport. Handisport, plus 165% sur Facebook. Donc tout ça, c'est forcément une bonne news. Hein.
À ce sujet-là, on peut en parler. On accompagne une marque qui s'appelle Apicil, hein, qui fait beaucoup de choses dans sa communication autour de justement les personnes en situation de handicap. On a eu la chance d'ailleurs de les accompagner sur un podcast avec Damien Seguin qui s'appelle Au bout de ses rêves. On suit l'aventure de Damien Seguin à qui il manque une main et qui fait le tour du monde, le Vendée Globe, donc le tour du monde à la voile, tout seul sur son bateau. C'est ultra intéressant et là on est sur une marque qui est clairement très précurseur dans toutes ces questions-là et qui l'a toujours intégré dans sa communication, qui fait même partie de ses valeurs, hein, de marque là, de rendre visible justement tout ça. Mais on le voit ça aussi, ça fait partie au même titre que d'autres minorités entre guillemets qui n'avaient pas forcément voix au chapitre. Bah, petit à petit, grâce au réseau, là on voit cette minorité-là qui peut commencer à prendre parole et à se faire entendre.
Et là tu parles d'Apicil qui est nos clients, mais on peut aussi parler d'autres marques. Je pense à Gucci, hein, qui a collaboré par exemple avec Ellie Goldstein. Ellie Goldstein, c'est une modèle de 18 ans qui est atteinte de trisomie 21, hein, et qui a été sporadiquement, on va dire, égérie de la marque Gucci et qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, en photo, en vidéo. Toyota aussi, hein, de son côté, qui a profité du Super Bowl pour diffuser une publicité qui met en avant Jessica Lang. Jessica Lang, c'est une nageuse handisport qui est amputée des deux jambes. Donc là aussi, les choses bougent avec un certain nombre de gros acteurs, mais il y a fort à parier que ce rapport au handicap, eh bien, pareil, il devienne plus global et que tous les acteurs du marketing, petit à petit, se décident à offrir plus de visibilité, plus de vision de ce que c'est la vraie vie. Hein. Et la vraie vie, bah, c'est pas que des gens valides, c'est aussi des personnes en situation de handicap.
Exactement. T'avais d'autres marques à nous présenter là-dessus?
Non. Gros tour d'horizon, il y a beaucoup de choses à dire. Hein.
Franchement, on a essayé de débroussailler un peu ce gros dossier là de Facebook. Hein.
On vous met le lien évidemment si vous voulez plonger par vous-même.
C'est costaud, il faut que vous alliez regarder vous-même parce qu'il y a plein d'informations dedans, il y a plein de choses. Donc c'est ultra intéressant, vraiment, ça vaut le coup d'œil, je trouve. Il y a plein de choses à en tirer. Je pense qu'on en reparlera dans le Super Daily dans les prochaines semaines parce qu'il y a d'autres sujets à l'intérieur qu'on aimerait bien aborder. Là, tout rentre pas tout dans un seul épisode. Hein. Il nous faudra un spécial Super Daily d'une heure et demie pour faire le tour. Mais
le monde bouge et les réseaux sociaux sont aux avant-postes de ces mutations culturelles. Voilà ce qu'il faut retenir, les amis. N'hésitez pas à venir papoter avec nous ça sur les réseaux Super Natif.
Sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur TikTok même maintenant. Venez nous voir. Et puis, si vous nous écoutez en podcast, venez voir le matin sur Twitch. Il se passe des trucs cool. Des échanges ultra intéressants. On peut parler en direct des sujets. Donc là, vous voyez, quand vous mettez fin à votre podcast, bah, nous, on continue après à discuter avec les audiences.
Et puis en plus, vous pourrez voir Adjan avec les cheveux lâchés ce matin. Si vous étiez
avec sans casquette. Vous pourrez me voir sans casquette.
Les amis, on vous embrasse. On vous souhaite une très belle journée. Et on vous donne rendez-vous dès demain.
Ciao,
salut
ciao.
Tout le monde. Bye.